qui a fait la transaction à la demande de Donald Trump. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont une preuve solide. Écoute, les Américains, c'est comme ici, ça prend une preuve hors de tout doute. Il faut que tu sois convaincu d'obtenir une condamnation avant de déposer des accusations. J'ai l'impression que celle-ci, c'est le début d'une série d'accusations qui vont avoir lieu au cours du printemps pour toutes sortes de situations, comme ce qu'il a pu faire en janvier 2020, je pense, le 6 janvier 2020, l'appel à la rébellion. En tout cas, j'ai l'impression que ça va mal aller, mais ça ne l'empêche pas, même s'il est emprisonné, d'être candidat aux élections présidentielles. Il pourrait le faire même d'une cellule de prison. Ça s'est déjà fait dans l'histoire. Ça pourrait même être le cas ici. Puis moi, j'ai l'impression qu'il va être candidat à anyway. Mais tu sais, quand tu dis oui, ça peut augmenter sa popularité, je pense que c'est jusqu'à un certain point. C'est sûr que plus tu aimes Donald Trump, plus tu es fan de Donald Trump, plus tu es indigné devant les accusations, puis tu vois des complots.
Voilà.
Mais il y a toujours, les élections, ça ne se gagne pas avec les fanatiques ou les extrêmes. Les élections, ça se gagne avec la clientèle plus molle, là, les balloteux, là, ceux qui se lèvent un matin, c'est un, se lèvent un matin, c'est l'autre. Les indécis, c'est eux qui déterminent l'élection, Yann. C'est pas la base solide, là. Alors, ces gens-là sont susceptibles d'aller peut-être vers un candidat qui est moins teint ou moins coloré, où il y a moins de suspicion. Et je pense que ça peut jouer dans la balance,
Ce
là.
serait DeSantis, mais je regardais les sondages là, actuellement. Donald Trump est entre 50 et 55 %, puis DeSantis est autour de 20. Donc, j'ai bien hâte de voir les prochains sondages, à savoir s'il va baisser ou s'il va augmenter. Mais j'ai l'impression qu'avec le discours de Trump, avec la façon dont il est, il va se positionner en victime, puis j'ai l'impression que ça va lui profiter. Mais bref, quelle histoire! Les Américains, c'est particulier, puis je peux pas croire. Mais non, mais il pourrait pas faire de prison en raison de ça, Maître Bellemare. Je peux pas croire qu'on oserait le mettre en prison, là. Ça serait la
Non, je
première
pense pas
fois
que ce
pour un
soit le
président.
cas. Ben, je pense pas que ce soit le cas parce qu'on est en 2023. L'élection a lieu en 2024, en novembre 2024. Il reste encore un an et demi. Ça m'étonnerait que le tout aboutisse avant, mais bien que c'est possible aussi. Mais on verra. De toute façon, ça n'a aucune importance. Moi, je pense que Trump va être candidat. Puis DeSantis va probablement l'être aussi. Si DeSantis est le candidat républicain, ben, ça va diviser le vote de la droite.
Exact.
Puis le grand gagnant de tout ça, c'est évidemment Biden, en autant qu'il est capable de faire l'élection puis que la santé lui permet de la faire. Mais c'est Biden qui est le grand gagnant de ça parce que c'est divisé pour régner. Tant que les Républicains vont chicaner, on l'a vu au Québec avec le PQ, tu te souviens, il y avait des guerres intestines au PQ, la droite, la gauche du PQ, les syndicaleux, les patronneux, ça se divisait, puis ça faisait en sorte que ça, il y a d'autres partis de gauche qui se créaient, puis ça faisait l'affaire des libéraux qui étaient élus. Un peu devant la division de la partie adverse. Au niveau républicain, moi, j'ai l'impression qu'ils vont être bien divisés à la prochaine élection. Tu vas aller Trump, puis tu vas aller DeSantis. Mais ça risque d'effriter le vote puis de créer de la zizanie que les électeurs n'ont pas tendance à appuyer quand ils mettent leur vote dans la boîte.
Mais bref, c'est du bonbon pour les gens qui suivent assidûment la politique américaine. Maître Bellemare, je ne sais pas si on en avait parlé, vous et moi, je crois que oui, mais est-ce que je vous avais parlé des fameux chasseurs de pédophiles de Gatineau?
Oui, on a déjà parlé, oui.
Puis je vous avais dit à ce moment-là, c'est litigieux un peu, de un, leur façon d'enquêter, puis de deux, de leur façon de tomber sur les individus. Moi, des gens qui veulent le plus possible mettre au jour des réseaux de pédophiles, je serai toujours pour, mais j'aurais aimé qu'ils soient prévenus d'avance qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et je me rappelle, quand j'ai discuté de ça, soit dans mon show du midi ou mon show du soir, j'avais mentionné que en utilisant des images qui peuvent être compromettantes, exemple, l'image d'un jeune garçon qui est en bas de 18 ans ou l'image d'une jeune fille qui est en bas de 18 ans pour essayer d'hameçonner des pédophiles, ben ces gens-là commettaient un crime eux-mêmes en partageant de la pornographie juvénile.
Oui.
Et c'est carrément ce qui est arrivé. Six chasseurs de pédophiles de Gatineau qui traquaient des hommes sur les médias sociaux après s'être fait passer pour des adolescentes et des adolescentes ont été arrêtés. Puis ils vont devoir faire face à 38 accusations, dont distribution de pornographie juvénile et harcèlement criminel. Ça, c'est arrivé, ça, les arrestations jeudi matin dans le secteur de Gatineau. Puis on parle d'hommes entre 24 et 40 ans. Puis il y a une femme aussi qui est impliquée, une femme autour de 25 ans. Eux s'appelaient les Pedbusters. Puis ils diffusaient les vidéos des individus qui réussissaient réussissaient à hameçonner des individus qui attendaient des jeunes filles à la sortie des gymnases, exemple, puis là, ben, ils les confrontaient avec leurs propos dans les discussions et tout ça. Mais la police de Gatineau s'est fâchée, puis on dit là, c'est fini, vous ne ferez plus notre job. Fait que on vous accuse. C'est fou, hein, quand même.
Oui, mais regarde, il faut. Ben, regarde. Tu n'as pas le droit de te faire justice. La pédophilie, c'est sûr que c'est criminel. En même temps, il faut que tu laisses le processus aller. Mais tu sais, moi, si je suis père de famille, puis qu'un de mes enfants est abusé ou leurré d'une quelconque façon, pire encore, s'il se retrouve sur les réseaux sociaux avec des photos compromettantes, je vais voir rouge, hein, puis je vais peut-être, si je sais c'est qui a fait ça, ce sera pas chaud.
Oh, ben, on est...
Mais je n'ai pas le droit de faire ça. Mais tu sais, on a vu ça à Québec il y a quelques années. Hein. Un gars qui a, je pense, un gardien de prison qui avait fessé un détenu dans un panier à salade. Il était pédophile. Bon, alors, il a été accusé, il a été condamné. Tu n'as pas le droit de frapper personne. Si tu n'es pas toi-même menacé, tu n'as pas le droit de frapper personne. Si lui, il s'en veut s'en prendre à toi avec une arme, tu as le droit de te défendre, mais ce n'est pas de la légitime défense que de fesser ou de frapper quelqu'un que tu soupçonnes d'être un criminel, voire un pédophile. C'est un peu tannant parce que le processus judiciaire est très long, puis souvent les gens sont remis en liberté. Et tu sais, on en discute souvent dans l'émission de des largesses du système qui laissent sortir des accusés de crimes graves. Ils retrouvent leur liberté, les libérations conditionnelles, la non-responsabilité criminelle. C'est un peu choquant pour les victimes, je le sais. Moi, j'en vois des victimes tous les jours à mon bureau, puis les gens me racontent des histoires épouvantables. Ils sont blessés, les victimes. Elles sont blessées mentalement. Elles sont humiliées. Choqués devant le fait que leur agresseur se promène en liberté souvent, puis il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. Alors nous, on le déplore de loin. On se dit, ça n'a pas de bon sens, comment ça fait qu'il a pogné 3 mois, comment ça fait qu'il est sorti. Mais la victime directe elle-même qui regarde ça, c'est encore pire pour elle. Alors des fois, les gens veulent se faire justice, mais regarde, qu'est-ce que je te dis? Le système a ses lenteurs et ses défauts, mais il faut le laisser aller, autrement on risque d'être soi-même puni, dans certains cas même plus sévèrement que l'agresseur lui-même.
Oui, ben, j'ai l'impression des fois que c'est en raison du fait que les policiers n'ont pas tous les outils nécessaires ou n'ont pas les fonds nécessaires pour enquêter sur ce type d'individu-là, ce qui fait en sorte que dans la population, ça cause de la grogne. Et là, il y a des gens qui décident de prendre les choses en main alors qu'ils n'ont aucune connaissance de comment faire ça de façon légale. Puis, ils commettent des gestes illégaux sans le savoir. Et après ça, ben, les policiers constatent ça sur les réseaux sociaux puis disent, ben là, il faut mettre un terme à ça. Mais les gars, je veux dire, c'est des accusations sérieuses, là, distribution de pornographie juvénile, puis harcèlement criminel. Ils vont payer probablement plus cher que les salopards qui, eux autres, au départ, voulaient coucher avec des jeunes petites filles. Des fois, le système est mal fait. Là.
Exact. Il y a des défauts, en tout cas. On en a des exemples quotidiennement. Oui.
Ouais. Avez-vous, c'est sûr que vous avez vu ça passer, là, la policière, suite à une intervention... avec un individu qui était en crise la semaine dernière, qui a mangé un coup de sabre. C'est pas encore clair à savoir si c'était un sabre, si c'était un couteau qui était extrêmement long, mais elle a mangé un coup de sabre, puis par la suite, elle a chuté du deuxième étage pour s'échoir au sol. Quelle histoire! Mais ce qui est encore plus dégueulasse, c'est que ça aurait pu être évité, parce que le gars qui a commis ces gestes ignobles-là, par 5 fois, il a réussi à s'en sortir parce qu'il n'était pas apte à subir son procès, parce que c'est un gars qui, entre les deux oreilles, ça n'allait pas pantoute. Va-tu y en avoir encore de ces histoires-là pendant des années et des années? Ça va-tu augmenter encore, Maître Bellemare? Ou bien, faut croire François Legault qui dit « faut être doux les uns envers les autres
». Ben écoute, tant qu'il y aura de la maladie mentale, il y aura des exactions et des infractions qui sont commises par ces gens-là. Et même si on resserre les contrôles de cure fermée, on appelait ça, quand j'étais petit gars, une cure fermée, c'est-à-dire un traitement fermé dans un hôpital psychiatrique, dans un centre psychiatrique, tant qu'il y en aura, on a beau resserrer ça, il va toujours y en avoir en liberté. Il y aura toujours des gens fragiles qui vont péter leur coche puis qui vont commettre des actes criminels. Le Guy Turcotte n'avait pas d'antécédent puis c'était pas... considéré comme un malade psychiatrique. C'est un gars qui a étudié jusqu'à 30 ans en cardiologie puis qui soignait des cardiaques puis sauvait des vies. Alors, maintenant, il tue ses 2 enfants. Alors, regarde, il y aura toujours des situations semblables à ça, mais c'est certain que quand tu vois un gars qui a été 5 fois libéré pour non-responsabilité criminelle, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est accusé d'un crime. Ce n'est pas nécessairement un crime grave. Je ne sais pas des crimes dont il est accusé. Il a été considéré comme incapable de comprendre ce qu'il faisait, incapable de discerner le bien du mal en vertu de l'article 16 du Code criminel, à savoir qu'il était non responsable criminellement des gestes qu'il avait posés.
En gros, c'est
Il
des voies
semble capable.
En gros, c'est des voies de fait, Maître Bellemare. Quand il était à l'hôpital, il frappait ses infirmières.
Oui, mais tu sais, ça peut être des petits crimes ou des mauvais crimes, mais à partir du moment où c'est à répétition, je comprends pas comment ça se fait qu'il a été en mesure de sortir plus tard, mais tu sais, c'est du cas à cas, hein? Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu des audiences du Tribunal administratif du Québec, qui est la commission des maladies mentales au Québec. C'est le tribunal qui entend les gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques pour avoir été non responsables criminellement. Quand ils veulent sortir, ils s'adressent au Tribunal administratif du Québec et à la commission des maladies mentales au Québec. Chaque province a sa commission pour permettre de sortir ou de disposer d'une demande de sortie de la part d'une personne qui était non responsable criminellement. Et on a tendance à analyser le dossier de façon isolée. Est-ce qu'aujourd'hui, cet homme-là, cette femme-là est apte à sortir? Est-ce qu'on peut la libérer de l'hôpital psychiatrique? Est-ce qu'on doit lui imposer des conditions ou est-ce qu'on doit la laisser en dedans? Tu comprendras que là comme ailleurs, au Canada, le principe de la liberté de la personne, c'est sacré. Alors, toute forme de contrainte à cette liberté-là ou d'obstacle à cette liberté-là, que ce soit la détention, que ce soit l'hospitalisation, doit être vue de façon restrictive. On doit favoriser la remise en liberté. Fait que si le non responsable criminellement, qui est à Robert-Giffard ou à Pinel à Montréal, se présente avec son psychiatre ou son avocat, il n'y a personne qui le contre-interroge, puis il n'y a pas de preuve contraire, puis lui, il dit, j'ai trouvé une petite molécule. C'est vrai que j'ai tué quelqu'un il y a 9 mois, mais aujourd'hui, je suis bien. On a changé la médication. Le psychiatre est là qui applaudit, puis qui dit, oui, c'est vrai, ça va bien. Il s'engage à prendre ses médicaments. On le laisse sortir. Puis, s'il décide de ne pas prendre ses médicaments ou que sa condition se détériore dans l'intervalle, ou qu'il vit une peine d'amour, ou qu'il y a quelqu'un qui le frustre, puis qui pète sa coche. Mais là, évidemment, il va commettre un autre crime, puis il va encore invoquer la non-responsabilité criminelle. Alors, le problème, c'est qu'on est peut-être trop tolérant dans ces instances-là. On laisse peut-être sortir trop facilement et on n'atteint pas un niveau de guérison qui est satisfaisant de sorte que la personne récidive. Ici, ça fait 5 fois, là. Là, il y a vraiment matière à se poser des questions sur ce système-là. Qui sont les décideurs qui ont laissé aller l'individu les 4 dernières fois? Je comprends que ce n'était peut-être pas des crimes. À ce moment-là, c'était des voies de fait. Mais c'est quand même un crime au sens du code criminel, avec des sanctions potentielles. Mais quand ça fait 5 fois, puis l'individu est de jeune âge, ça veut dire qu'éventuellement, dans la société, il va aggraver sa situation, il va commettre d'autres genres de délits. Et là, ça a été un assassinat, ou bien il l'a poussé en bas du deuxième, ou bien il l'a poignardé, on ne sait pas trop. Mais il semble évident que c'est lui qui est à l'origine du décès de la policière. Moi, je
Ouais.
trouve ça effrayant.
Ce
Puis là, on
qu'on
se retrouve avec des situations particulières parce que les associations de policières du Québec sont aux barricades en disant, là, c'est qui le prochain? Et ils ont raison d'être inquiets. Et je pense que ça peut, à la limite, avoir un effet sur le recrutement, l'intérêt que les jeunes peuvent avoir pour les forces policières. Quand tu vois ça te tente un petit peu moins de devenir police. Je ne dis pas que ça ne te tente pas pantoute, mais disons que ce n'est pas de nature à aider. Quand tu sais qu'un milieu est trouble, quand tu sais qu'il y a des risques, tu es peut-être un petit peu moins porté à y aller parce que tu sens que tu n'es pas protégé par l'État, puis qu'il y a n'importe qui se promène dans le chemin, puis qu'il y a de plus en plus de gens à risque de s'en prendre aux policiers qui, eux, sont là précisément pour neutraliser le danger.
Parce que quand on parle aux policiers au centre-ville de Québec, ils nous mentionnent qu'à peu près 80% de leurs interventions qu'ils ont à faire chaque jour au centre-ville de Québec, ça touche constamment la maladie mentale. Je ne sais pas comment ça se passe à Louisville. Pour ce qui est de ce qu'on nous a raconté, c'est qu'elle a mangé un coup de couteau ou un coup de sabre et par la suite, elle a reculé puis elle a passé par-dessus la galerie puis elle est tombée en bas. Mais il semblerait qu'avant, lors de l'arrestation, l'individu était très relax, très coopératif, très gentil. Puis en quelques millisecondes, l'individu s'est reviré, pouf, décide de donner un coup à l'agente qui était en travail supplémentaire ce soir-là, Maureen Breaux. Les policiers aussi, quand ils font des interventions, savent que ils doivent faire preuve d'un jugement qui est quand même assez extrême, là, dans le sens où à chaque fois qu'ils font une intervention, ils savent que leurs interventions sont scrutées à la loupe, là, advenant le cas où ils tirent trop vite. Ils vont se le faire dire, ils vont perdre leur job, puis ils vont probablement faire de la prison. Advenant le cas où ils tirent pas, ben là, c'est leur vie qui peut être en jeu. Tu sais, le juste milieu, ça doit être assez compliqué quand on travaille dans des endroits comme ça où il y a des malades mentaux, puis on doit faire des interventions. Il y a tellement de téléphones cellulaires qu'à un moment donné, ta job devient plus complexe, puis tu vas être hésitant à tirer parce que tu te dis, hey, chaque fois qu'il y a une balle qui va sortir de mon gun, ça me met dans la marde. C'est assez complexe aujourd'hui le métier de policier-policière, puis de voir cette jeune femme-là qui était supposée de pas travailler ce soir-là, qu'elle acceptait un quart de travail supplémentaire, plein de belles choses qui allaient lui arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Elle avait été promue au poste d'enquêteur. Son conjoint travaille aussi à Trois-Rivières comme enquêteur. Là, tout ça, il y a deux enfants qui ne reverront plus jamais leur mère, il y a un homme qui ne verra plus jamais sa femme, puis il y a une communauté qui est en deuil, là.
Oui, mais c'est ça. Puis là, on parle, Yann, de gens formés. Les policiers sont probablement les individus au Québec qui sont les mieux formés pour faire face à cette clientèle-là. On s'entend-tu, là, que moi, si demain matin, je me retrouve sur le trottoir avec un capoté, là, qui me menace puis qui se promène avec un couteau, là, je ne sais pas ce que je vais faire parce que je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas formé pour ça et je m'y attends pas non plus. Dans le cadre de tes fonctions de policier, policière, tu t'attends à voir des individus menaçants, des risques. Et tu es formé à l'école de police pour pouvoir faire face à ça. Ton expérience, l'encadrement dont tu bénéficies dans les forces policières te permet d'être un peu plus vigilant. Je ne te dis pas que tu es prêt à toutes les situations, mais tu es un peu plus vigilant face aux dangers. Et c'est ça qui est arrivé. Alors, on peut s'imaginer les voisins, les parents. Les co-employés quand l'individu a un emploi, l'employeur, les propriétaires de bars, le commerçant qui font face à cette clientèle-là, pour eux, c'est encore pire parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Alors, eux sont dans une situation catastrophique. On se rappelle, il y a quelques mois, un an et quelques, Kim Lebel à Lac-Saint-Charles, c'est un petit peu ça. Il s'en prend un voisin, il le tue. Là, il est accusé de meurtre, il invoque la non-responsabilité. Mais il reste que le voisin, qu'est-ce que tu fais quand, en plein milieu de la rue, tu as un individu déséquilibré qui t'attaque à quelqu'un puis qui le menace de mort, qui le frappe, qui le blesse ou même qui le tue? Alors, c'est tout ça qui est en jeu et c'est sûr que c'est inquiétant. Est-ce qu'il y en a plus? Je ne le sais pas. Je sais qu'au Québec, au niveau des non-responsabilités criminelles, on avait le record pendant un certain temps. Je sais qu'il y a quelques années, les statistiques nous mettaient quasiment autant de non-responsabilité criminelle au Québec que dans l'ensemble du reste du Canada, ce qui est inquiétant. Mais depuis l'affaire Turcotte, il y a beaucoup moins de cas qui sont acceptés. Les juges sont un peu plus sceptiques. On sent que c'est plus difficile d'obtenir une non-responsabilité criminelle. Mais malgré ce contexte-là, l'individu qui a assassiné ou qui est accusé, en tout cas, qui ne sera jamais parce qu'il n'est plus là, mais il reste que le crime de la policière Maureen Breaux, risque d'être dans les annales parce que là, ça faisait 5 fois. Alors, il y en a combien de 5 fois qui se promènent dans les pharmacies puis dans les rues ce matin, là, ce soir, là, combien il y en a? Alors, faut être capable de vivre avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut virer fou et être paranoïaque, mais on peut quand même questionner le système. Puis, si on parle à des élus ou des gens qui sont en charge de l'administrer, peut-être les sensibiliser au fait qu'il y a une inquiétude qui grandit dans la population quand ce genre de situation-là se présente, avec raison, à mon avis.
Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, Maître Bellemare, je ne sais pas si parce que je lis régulièrement l'actualité, tout ça me rentre dans la tête. Puis je ne sais pas si vous avez vu passer ce qui s'est passé à Vancouver où un homme était en compagnie de sa femme puis de son bébé et sont dans un café Starbucks. Il y a un individu qui est juste à côté dans le café Starbucks qui décide de vapoter puis d'envoyer ses vapeurs dans le visage de l'individu qui est à côté avec son enfant. Et là, ben, l'individu a dit, tu peux-tu juste ne pas vapoter à côté de mon enfant? L'autre est à côté, pogné les nerfs, sorti le couteau, poignardé plusieurs fois l'autre. Puis tout ça a été filmé, Maître Bellemare. J'ai vu les images hier, là, pas hier, excusez-moi, c'est vendredi passé, vendredi matin passé. C'est atroce. L'individu, il allait juste se chercher un café, puis finalement, il ne retournera jamais chez eux. Il s'est fait poignarder parce qu'il a dit à un autre, tu peux-tu juste ne pas vapoter à côté de mon enfant? J'ai l'impression qu'on vit des fois dans un asile à ciel ouvert, puis on n'en prend pas tout à fait conscience. Mais en lisant constamment l'actualité, je me dis, OK, on a peut-être des raisons de se méfier des uns des autres des fois, là. Quelle
Mais moi, je
histoire,
pense que
tout
la
ça.
chose à faire, là, la chose à faire, si ça se produit pour nos auditeurs ce soir, là, si jamais vous êtes en présence d'un individu menaçant ou à risque, là, si vous êtes dans votre voiture, sortez pas de l'auto. Sortez pas de l'auto. Restez dans l'auto, barrez vos portes, puis si vous êtes capable, sacrez votre camp. Prenez l'identité de la personne, son numéro de plaque si vous êtes capable, et appelez les services policiers pour dire qu'à tel endroit, il y a un individu menaçant qui vous a molesté ou qui vous a insulté ou vous avez craint pour votre sécurité. Mais la meilleure chose à faire, c'est de ne pas répondre, à moins que vous soyez vous-même attaqué de façon sérieuse. Mais la meilleure façon, c'est de sacrer notre camp. Mais tu sais, surtout nous autres, les gars, on n'est pas portés à faire ça. On est portés à riposter et à dire, hey, je ne me laisserai pas faire. Il y a une question d'honneur puis de honte aussi rattachée à ça. Tu as l'air chicken quand tu te sauves, mais si l'individu est armé puis un couteau, là, tu n'as pas besoin d'avoir un permis pour ça. Tu rentres dans ta cuisine, tu prends un couteau, tu mets ça dans tes poches, tu te promènes avec ça. Puis l'individu, souvent, c'est des armes, c'est des objets contondants, c'est des couteaux dont ils te servent. Ce n'est plus des fusils. Des fusils, ça prend des ci, des ça, faut les acheter, faut les entreposer. Ça coûte de l'argent, un couteau, ça ne coûte rien. Alors, tu peux même voler ça dans un restaurant. Alors, si ça vous arrive, moi, je pense que le meilleur conseil à donner, c'est de sacrer votre camp, mais de le signaler pour être sûr que le prochain ne se fera pas attaquer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire plutôt que d'essayer de répondre. Si c'est un déséquilibré, il peut faire n'importe quoi, puis c'est ça qui risque d'arriver, des coups de couteau. Puis quand tu en as deux, trois dans le corps, ben, tu deviens rapidement inopérant, tu sais.
Je vais toujours par le même processus quand ça arrive. Exemple, je sais pas, moi, je coupe quelqu'un sur la route, je m'en rends pas compte, puis là, l'autre individu est fâché, puis il arrive à la hauteur de mon véhicule, puis là, il me fait des gros signes, puis là, il arrive devant moi, puis il break, puis il break, puis il break. Je me dis toujours, OK, j'ai-tu quelque chose à perdre? Ouais, j'ai quelque chose à perdre. Ça se peut que j'aie un dossier criminel. Ah, ouais, ça se peut que il se passe quelque chose d'encore plus grave, que je puisse pas revoir mes enfants. Ça se peut que je sois, l'individu sorte un coup de batte de baseball. Je me pose toujours ces questions-là, puis je me dis finalement, ouais, je baisserai pas la fenêtre, je sortirai pas de mon char, je vais juste faire comme si cet individu-là n'existait pas. En même temps, on veut pas vivre dans cette société-là. Puis il y a de ça quelques années à l'Halloween, on s'en souvient, là, ce qui s'est passé à Québec, le fou qui se promène avec son sabre à l'intérieur des murs du Vieux-Québec. Quelques jours plus tard, il y a eu une conférence de presse avec Lionel Carman. Puis Geneviève Guilbeault, on en a parlé, vous et moi, dernièrement, et ils ont promis plus de 100 millions de dollars pour aider pour la santé mentale. Puis quand on parle aux gens qui sont sur le terrain, il n'y a absolument rien qui a changé depuis 2, 3, 4, 5 ans. Mais pourtant, les policiers nous ont annoncé 100 millions de dollars. Là, ils arrivent avec cette tragédie-là à Louisville, une policière qui est tuée lors d'une intervention. Le premier ministre Legault dit, on va faire quelque chose. Pour l'instant, ce qu'on a à faire, c'est être doux les uns avec les autres. Mais moi, je veux des gestes concrets. Les fous dangereux, je veux qu'ils restent à l'asile. Je veux qu'ils soient à Robert Giffard. Je veux qu'ils soient à Pinel. Puis s'il y a un risque quelconque de danger pour la population quand cet individu-là est à l'extérieur, bien, c'est bien de valeur pour lui. Il restera à l'intérieur des barreaux avec les siens. Puis la société va continuer de mieux aller, là.
Oui, mais tu sais, François Legault, là, quand il est victime de menaces, là, il y a 50 polices, gardes du corps qui s'occupent de lui. Il y a des enquêteurs sur leur ordinateur qui cherchent d'où vient la menace. Il est protégé ultra. Puis je pense que c'est dans son rôle de premier ministre du Québec de faire un appel au calme, puis de pas dire, comme on le fait nous autres, sauvez-vous, ou faites des affaires, ou battez-vous, défendez-vous. Tu sais, c'est pas sa job de faire l'éloge de comportements qui seraient disgracieux ou qui seraient t'sais, des comportements agressifs en réaction à une agression qu'on vivrait. C'est normal qu'ils disent ça. C'est comme une cassette. Mais pour l'individu qui vit ça sur le trottoir ou dans un Starbucks avec un fou qui vapote dans sa face ou avec un voisin qui l'agresse avec un 12 ou qui menace ta femme ou tes enfants, c'est une toute autre affaire, mais je pense que dans la mesure du possible, il faut essayer de quitter les lieux, même si on a l'air un peu chicken, il faut essayer de quitter les lieux pour éviter le pire. Et puis ces individus-là sont menaçants, on les connaît. On le voit dans l'actualité des exemples où il y a eu une réaction, puis ça a donné un drame. Je comprends que les policiers ne peuvent pas laisser faire ça, puis sauver, puis laisser l'individu menaçant faire n'importe quoi, mais le citoyen, lui, a le droit de faire ça. Alors, moi, c'est le conseil que je donnerais aux gens si jamais la situation se présente.
Maître Bellemare, on passe à un autre sujet qui a fait la manchette la semaine dernière. Une procureure au bureau de la grande criminalité au directeur des poursuites criminelles et pénales. Son nom, c'est Maître Alice Bourbonnais-Rougeau, qui a quand même œuvré dans le dossier de corruption de l'ex-maire de Terrebonne. C'est une fille qui a fait son nom dans le milieu. Et elle se serait sauvée des... Je ris, là, mais c'est pas drôle. Elle se serait sauvée des policiers en se barricadant dans sa maison pour ne pas passer le test d'éthylomètre, c'est ça?
C'est ça. C'est qu'on parle d'un incident qui serait survenu le 24 avril 2021, où la personne aurait été, qui est une procureure de la Couronne, une procureure aux poursuites criminelles et pénales, DPCP, aurait eu une conduite erratique sur la route. Elle aurait essayé de parquer son auto de façon erratique, frapper d'autres véhicules. Le voisin voit ça. Elle donne sa carte d'affaires au voisin pour peut-être pour y montrer que c'est une personne importante. Le voisin ne bronche pas, il appelle la police. La police intervient et la femme, Maître Alice Bourbonnais-Rougeau, se barricade dans sa maison pendant 5 heures, puis elle bouge pas. Et là, pendant ce temps-là, les policiers, évidemment, encerclent la maison. Ils attendent et ils regardent. Entre autres, il y a une discussion entre la police et l'avocate qui est dans sa maison, qui sort pas, qui est nerveuse. Et ça a l'air qu'elle a une bouteille de boisson dans les mains, puis qu'elle marche un peu croche, puis qu'elle a la bouche un peu pâteuse, puis qu'elle a une haleine de boisson. Et puis, les policiers prennent une flashlight, puis regardent à l'intérieur pour voir un peu ce qui se passe. Alors, au bout de 5 heures, elle sort de là, elle est accusée. Et depuis ce
Cinq
temps-là, elle
heures.
essaye, hein?
Elle restait chez eux 5 heures.
5 heures. Puis là, depuis ce temps-là, elle essaie de faire casser les accusations en invoquant une atteinte à ses droits fondamentaux. Et essentiellement, il y a deux atteintes qui m'ont frappé quand j'ai lu l'histoire. D'abord, elle invoque qu'elle a été victime d'une fouille abusive. Tu sais quoi, la fouille abusive? C'est
Non,
pas qu'on y
allez-y.
a touché puis qu'on a regardé en dessous de son linge ou quoi que ce soit. C'est que, on a pris une flashlight pour regarder à l'intérieur de sa maison. Et le juge a estimé qu'effectivement, c'est une atteinte à ses droits fondamentaux que d'avoir pris une flashlight pour voir à l'intérieur de la maison. Ça veut dire que si tu regardes à l'intérieur de la maison de ton voisin avec une flashlight, là, ça va être une fouille abusive. Et le juge a dit oui, c'est une fouille abusive, mais c'est pas assez abusif pour qu'on scrappe les accusations, puis qu'on laisse tomber les accusations, puis qu'on libère cette dame-là des accusations portées contre elle. On a aussi invoqué... Le fait que la police avait, pendant qu'elle était au poste, qu'elle faisait un téléphone pendant 27 minutes à son avocat, la police a estimé que c'était abusif, puis qu'elle étirait le temps au téléphone pour, je sais pas, peut-être pour faire baisser son taux d'alcool, aucune idée. Mais la police a mis fin à la conversation entre l'avocat de cette dame-là et elle-même. Après 27 minutes, le juge a dit, vous n'avez pas d'affaire à mettre fin à une conversation. Elle a le droit de prendre le temps qu'elle veut pour parler à son avocat. Donc, c'est aussi une atteinte à ses droits fondamentaux. Mais ces deux atteintes-là n'ont pas été jugées suffisantes pour annuler les accusations, de sorte que les accusations sont maintenues. Alcool au volant, puis en tout cas, il y a deux, trois infractions qui sont reconnues, qui sont maintenues contre elle, puis il y aura éventuellement un procès. Mais en essayant de faire tomber les accusations, vraisemblablement pour garder sa job, parce qu'on sait bien que c'est un casier judiciaire, puis que tu es avocat aux poursuites criminelles et pénales, ton temps est compté. Alors, elle essaie de faire tomber ça. Elle a 30 ans, elle est jeune, elle est prometteuse dans sa profession. Je pense pas que ce soit une mauvaise avocate, mais des problèmes de comportement de cette nature-là. Puis c'est sûr que si elle est condamnée, ça va aller mal pour elle, puis pour sa job. Mais tout ça pour dire que des fois, tu veux essayer d'éteindre un feu, puis tu en rajoutes. Hein? Si tu essaies d'éteindre un feu avec du gaz, ça se peut que ça flambe plus que ça éteigne le feu. Et c'est ça qui est arrivé ici, parce que là, cette histoire-là, qui était très peu connue, sauf dans les milieux privilégiés, est maintenant connue du vaste public. Ça fait l'objet de la une de la presse à Montréal, et tout le monde est au courant de ce qui se passe. Fait que là, ça porte atteinte à sa réputation, à elle, quoi qu'il arrive dans les accusations, mais ça porte aussi atteinte à l'institution du DPCP. Qui, pour l'instant, je pense bien, a maintenu le lien d'emploi avec elle.
Parce que là, on
Alors,
nous...
c'est pour dire que tu t'appelles Trump ou que tu t'appelles Bourbonnais-Rougeau, éventuellement, la justice a le brelon, ça a l'air, puis qu'éventuellement, tu risques d'avoir à donner des réponses à des accusations sérieuses. C'est ce qui se produit avec cette dame-là.
Parce qu'on va en entendre parler en avril prochain de cette histoire-là, de cette avocate du DPCP. Mais ce que je comprends, c'est que l'échantillon d'haleine qui a été prélevé par les policiers va être exclu de la preuve et ça risque de faire tomber le chef d'accusation d'avoir plus que la limite d'alcool permise dans son sang. Donc, on va avoir plus de détails
Oui, mais il y a
dans les
plusieurs
prochains jours.
accusations. Il y en a qui sont cassées, puis il y en a qui sont maintenues. Mais il reste que, tu sais, un casier judiciaire, c'est un casier judiciaire, Yann, qu'il soit gros ou petit.
Ouais.
Même si c'est quelque chose de, c'est un crime mineur, il reste que ça peut avoir des portées importantes. Vol à l'étalage, violence conjugale, insultes, menaces de mort, voies de fait, c'est pas considéré comme des crimes qui sont en général de haut niveau, comme des agressions sexuelles avec violence ou des voies de fait avec lésions ou des tentatives de meurtre ou des assassinats. Mais il reste que dans certaines professions comme celle-là, le moindre crime a un impact déterminant et il n'y a pas de petit crime.
Est-ce qu'elle
Alors,
pourrait
pour le.
continuer à être avocate tout en étant au criminel? J'imagine que oui.
Ben, je ne pense pas qu'au DPCP, ça puisse être possible, là. Je ne l'ai pas vérifié de façon spécifique, mais je serais très étonné qu'au DPCP, qu'on accepte qu'une avocate, qu'un casier judiciaire.
Mais pour la défense?
Pour sa défense, dans quel
Non,
sens?
mais est-ce qu'elle pourrait être avocate de la défense? Parce qu'on a régulièrement vu ça, des avocats qui se faisaient prendre pour alcool au volant puis qui continuaient quand même de travailler comme avocat, mais c'était des avocats de la défense, c'était pas les avocats qui étaient
Oui,
au
je pense que pour un
DPCP.
avocat de la défense, ça pourrait aller. C'est juste qu'au niveau de l'institution du DPCP, là,
Ça
c'est
regarde
un
vraiment.
autre paire de manches. C'est un autre paire de manches. Puis il faut aussi considérer que n'importe quel employeur, quand un crime a été commis, qui remet en question l'institution, par exemple une banque avec un cas de fraude, tu peux être congédié. Par exemple, une garderie avec un cas d'agression sexuelle, tu peux être congédié parce que ça va au cœur de ta fonction. Et ça va au cœur aussi de la mission de l'entreprise pour laquelle tu fonctionnes. Alors là, tu combats le crime par le biais du DPCP, tu fais partie du DPCP, tu es un avocat aux poursuites criminelles et pénales, et tu as un dossier criminel. Donc, c'est comme, à mon avis, inacceptable que le DPCP maintienne dans ses rangs quelqu'un qui serait condamné pour un acte criminel au Québec, là.
Parce qu'il y avait un avocat de Québec, un jeune avocat de Québec qui a été au DPCP pendant quelques années, Jean-Roch Parent, qui par la suite a eu des démêlés et est devenu avocat de la défense. Là, je pense qu'il ne pratique plus, là, Jean-Roch Parent, mais il avait, c'est ça, il était passé du DPCP au de l'autre côté, c'est-à-dire à la défense, puis il semblait bien fonctionner jusqu'à temps qu'il arrive certains épisodes dans sa vie qui ont fait en sorte qu'il fallait qu'il soit plus avocat.
Oui, puis il y a eu un juge aussi, le juge Alain, je ne sais pas si tu te souviens,
Alcool au volant, oui.
alcool au volant, je pense que c'était point 23 d'alcool dans le sang, qui avait continué de siéger malgré le fait qu'il avait commis un acte criminel. Alors, bon, moi j'ai toujours trouvé que c'était une situation inacceptable pour la population, là,
Mais
aux yeux de la
ça arrive
population.
aujourd'hui, ça, Maître Bellemare, là. Ça arrive à un juge aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il peut continuer de siéger?
Ben, c'est le conseil de la magistrature qui tranche puis qui décide à partir de ça. Je pense qu'il y avait eu des démarches au niveau du conseil de la magistrature fédérale pour le juge Alain qui était de la Cour supérieure. Je n'ai pas l'impression que c'est automatiquement un cas de disqualification, mais moi, je pense que les standards devraient être aussi exigeants pour les juges que pour la population générale parce que c'est les plus hautes fonctions, c'est des fonctions qui doivent présenter une perspective morale et déontologique au-dessus de tout, probablement les plus importants de la société, un peu comme un ministre ou un député. Les juges doivent être au-dessus de tout soupçon. Alors, qu'on permette à un juge, quel que soit son niveau judiciaire, de siéger alors qu'il est même accusé d'un crime grave comme celui-là, je trouve que c'est inacceptable, mais évidemment, c'est pas moi qui décide. Il y a des mécanismes pour décider de ça. Mais dans le cas du juge Alain, je sais qu'il avait continué de siéger, qui m'était apparu à moi personnellement inacceptable. Donc, voilà.
Maître Bellemare, vous vouliez nous parler de Jacques Raymond, un ancien pharmacien qui avait plusieurs pharmacies à Québec, là. Puis quand j'ai vu son visage sur la page du journal de Québec.com, je me suis rappelé que c'était le pharmacien de la pharmacie que je fréquentais dans les années 80 et les années 90. Jacques Raymond qui va devoir faire face à en fait, il a été coupable, déclaré coupable, enfin, d'une agression sexuelle qu'il a commise dans sa pharmacie.
Oui, ben oui, c'est quoi sa bannière? Est-ce que tu te souviens de. C'était-tu pharmacie?
C'est une pharmacie au centre-ville de Québec, là, mais je veux pas me tromper d'entreprise, mais c'est une grosse bannière, là.
OK, parce que moi, j'ai pas. Évidemment, on ne parle pas dans la dépêche, dans les médias, de la bannière en question, mais on sait que cet individu-là, en 91, aurait, après les heures d'affaires, fermé la pharmacie et aurait invité une jeune fille de 16 ans à essayer de nouveaux vêtements pour l'entreprise. Alors, veux-tu essayer ça? Je veux voir un peu comment c'est. Fait que la jeune fille accepte, mais là, M. Raymond l'invite à se dévêtir, enlever sa brassière, lui touche, l'embrasse dans le cou, etc. Donc, évidemment, c'est illégal. C'est une agression sexuelle. C'est un comportement sexuel non consenti. Alors, il décide, la jeune victime finit par se dire, moi, je vais dénoncer, comme ça se fait de plus en plus. Des jeunes filles qui ont été agressées jeunes et qui décident à l'âge mûr ou dans la quarantaine où il n'y a pas de délai. On sait que maintenant, au civil comme au criminel, il n'y a plus de délai pour réclamer ou pour poursuivre ou accuser quelqu'un dans le cas d'un acte criminel. Alors, c'est ce qui s'est produit. Et ben, M. Raymond n'a pas eu beaucoup de succès devant le tribunal. Il a été accusé d'avoir louvoyé, d'avoir caché un comportement dans son témoignage qui était plein de contradictions, plein d'hésitations. Alors que la jeune fille était très sereine, pas de signe de vengeance ou de. Alors, ça a été au niveau de la crédibilité que ça s'est joué. Et on ne le répétera jamais assez. Des fois, les victimes se disent, mais ma parole contre la sienne, ça ne marchera pas, jamais il va être condamné. C'est vrai que ça peut être le cas, comme ça a été le cas pour M. Rozon à Montréal et M. Salvaille qui ont été acquittés. Mais dans bien des cas, ce qui va être déterminant, c'est l'attitude de l'accusé. Comment il explique la situation, comment il rappelle les faits, quelle est la qualité de son souvenir, est-ce qu'il a agressé ou non, est-ce qu'il a été invité. Alors lui, ce qu'il disait, c'est que c'était la jeune fille qui avait fait des avances et qui avait été à l'origine de la relation. Il ne disait pas qu'il n'y en avait pas eu, parce qu'il y avait, semble-t-il, un message texte ou un courriel après ça qui disait, ben, j'espère que je t'ai pas fait trop de dommages. Et après ça, il disait que ce n'était pas sûr que c'était arrivé. Alors j'ai l'impression que son témoignage était pourri en bon québécois. Et c'est pour ça que la jeune fille a été crue et que le juge a estimé qu'il était coupable. Alors, il connaîtra sa sentence prochainement. Mais il reste qu'on parle d'événements survenus en 1991. Alors, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que c'est arrivé. Alors, si vous avez été victime d'attouchement ou d'agression ou sexuelle, de quelque nature que ce soit, de toucher non consenti, de relations sexuelles ou même d'attouchement non consenti, peu importe le moment où ça s'est fait, vous avez le droit de porter plainte à la police et il y aura éventuellement, si votre témoignage est crédible, des accusations. Ce que fait la police quand vous portez plainte, c'est qu'elle prend votre déposition. Après ça, elle va rencontrer généralement la personne qui est soupçonnée. Et dépendant de la version qui est donnée de la personne, s'il y a des hésitations, s'il y a des contradictions, la police va peut-être juger qu'il y a matière à déposer le dossier au niveau du DPCP. Puis c'est là que le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est un avocat, va regarder s'il y a des chances de réussir devant la cour. Parce que ce n'est pas la police qui plaide la cause. La police témoigne, les versions, les témoins, mais c'est le DPCP, c'est l'avocat qui est au bat. C'est lui qui va devoir faire le procès et c'est lui qui va évaluer la qualité des témoins, la qualité des témoignages, la qualité de la preuve. Puis s'il est convaincu d'obtenir une condamnation, à ce moment-là, il va déposer des accusations, ce qui fut fait avec succès dans le cas de M. Raymond, qui maintenant va connaître sa peine, malgré l'âge avancé, qu'il présente et malgré le fait que le crime a été commis il y a 32 ans.
Mais Delmar, c'est quoi? Il n'y a plus de délai de prescription. Hein? Quelque chose qui s'est passé dans les années 80 pourrait encore faire, t'sais, je sais pas moi, une agression sexuelle des années 80, ça se peut qu'on revoie ça en 2023. La victime va rencontrer les policiers, puis si, comme vous l'avez dit, le témoignage est solide, puis on a des raisons de croire cette dame-là ou cet homme-là, il y a de fortes possibilités qu'il y ait des accusations.
Oui, c'est ça, mais écoute, il n'y a jamais eu de délai pour accuser quelqu'un d'un crime. On se comprend. Les enquêtes policières peuvent prendre du temps. Il peut arriver qu'à tel moment donné dans l'histoire, on n'ait pas assez de preuves. Puis à un moment donné, il y a un témoin qui s'ajoute, il y a une photo qui arrive, il y a un document qui arrive dans le dossier. Puis là, oups, ça vient de changer la donne. Des fois, c'est simplement un changement d'enquêteur au dossier. Il y en a un qui disait c'était pas assez fort, l'autre va dire oui, ça l'est. Ça se retrouve au bureau du DPCP, puis il y a des accusations de portée. Il n'y a jamais eu de délai de prescription, c'est-à-dire de délai pour accuser. On n'a pas un système au Québec où un acte criminel, par le seul écoulement du temps, devient blanchi et n'est pas susceptible de faire de déboucher dans des accusations. Ce qui a changé en 2020, il y a 3 ans, c'est les recours civils dans les cas d'actes criminels. c'est-à-dire le droit d'une victime elle-même d'aller en cour civile pour demander un dédommagement suite à un acte criminel de type agression sexuelle. Alors, la CAQ avait promis en 2018 de modifier le code civil pour enlever le délai de 30 ans qui existait. Dans certains cas, c'était 3 ans, mais en tout cas, c'était compliqué, la mécanique au niveau des délais. Mais il y en avait des délais dans le code civil pour les cas d'agression sexuelle, ce qui fait que les victimes qui avaient par ailleurs de bons dossiers, qui avaient été agressées il y a 40 ans, ne pouvaient pas poursuivre au civil. La police pouvait le faire au niveau du DPCP, mais pas au niveau du droit civil pour la victime. Alors, la CAQ a annulé le délai de prescription. Il n'y en a plus dans le code civil, de sorte qu'on peut aujourd'hui poursuivre un agresseur sexuel pour des crimes commis sans limite de temps, même dans les années 40, dans les années 50. Et c'est ce qui fait qu'il y a des recours collectifs depuis 2020 qui ont été déposés, comme celui qui est déposé contre le diocèse de Québec, dans lequel j'agis comme avocat, un recours collectif contre le diocèse de Québec pour des crimes commis par des prêtres depuis 1940. Alors, ça fait 83 ans. Alors, il y a des membres du groupe qui ont été agressés dans les années 50, 60. Ils sont membres du groupe et la cause est actuellement devant la Cour supérieure pour éventuellement déboucher vers des condamnations du diocèse de Québec pour les crimes commis par des prêtres sous son autorité depuis 1940. Alors, ça, c'est nouveau et ça, c'est possible depuis 2020, depuis que le délai a été retiré, abrogé du Code civil du Québec.
Et ça, même s'il y a des agresseurs qui sont décédés, on continue de procéder quand même au civil?
Bien, dans la mesure où le diocèse lui-même est poursuivi pour les actes commis par des prêtres sous sa gouverne ou sous son autorité,
Ouais.
parce que les paroisses, les diocèses à l'époque savaient qu'il y avait des agresseurs sexuels dans leur sein. Qui opéraient. Des fois, ils les déplaçaient d'une paroisse à l'autre. Il y avait comme des mécaniques qui étaient en place et qui permettaient aux agresseurs sexuels de sévir, même dans les cas de décès. On peut faire la preuve que ce prêtre-là a effectivement abusé des enfants avant son décès, dans la mesure où le diocèse est poursuivi puis qu'il n'y a plus de délai, c'est le diocèse qui est susceptible de payer parce qu'il est responsable conjointement et solidairement avec le prêtre, même s'il est décédé, de sorte que les recours subsistent dans le temps. Malgré le décès d'un des membres de la communauté.
En quelques secondes, Maître Bellemare, moi, tu sais, il y a eu des événements extrêmement tragiques dans les dernières années concernant les agressions sexuelles, les dossiers très lourds qui sont arrivés dans l'actualité. Puis en discutant avec des policiers puis des policières en ondes, même il y a une enquêtrice qui est venue nous jaser sur les zones de boulevard, de la façon maintenant dont on traite les victimes. Tu sais, il y a des policiers qui sont spécialisés pour accueillir les victimes maintenant, pour essayer de recueillir les témoignages et tout ça. Ça a beaucoup changé. Tu sais, dans les années 80, les policiers étaient très bien intentionnés aussi, mais avaient une façon de faire qui faisait en sorte que certaines victimes sortaient de la centrale de police et étaient extrêmement déçues de la façon dont elles avaient été reçues de la part des policiers. Aujourd'hui, les policiers sont plutôt empathiques et ont une façon de travailler qui fait en sorte qu'il n'y a pas de, y a pas de honte à aller leur jaser maintenant.
Non, il n'y a pas de honte, puis il y a plus d'ouverture. Et puis tu disais tantôt, ouais, maintenant, il n'y a plus de délai pour accuser aux criminels. Il n'y en a jamais eu, mais c'est sûr que la mentalité a changé. La société a changé et le système judiciaire s'est un petit peu adapté à cette réalité-là. L'intolérance faite aux agressions sexuelles a atteint des sommets inégalés dans l'histoire. Les gens sont écœurés de ça. Les parents sont préoccupés. Les jeunes sont plus au courant de leurs droits. Les services de police sont davantage budgétés, organisés pour recevoir ce type de plaintes-là. Il y a du personnel spécialisé au niveau des poursuites criminelles et pénales, également au niveau de la police. Il y a maintenant un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle. Alors, ça a changé. Il y a MeToo également qui a changé le décor. Et aujourd'hui, les policiers, sont davantage, préoccupés par la situation. Puis il y a plus d'accusations. Il y a certainement des gens, il y a 30, 40 ans, qu'on n'aurait pas accusé pour toutes sortes de raisons, un individu bien placé, l'absence de corroboration de la part de la victime, le témoignage un contre un. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin, puis on va être plus audacieux, puis plus ambitieux dans les accusations. Puis l'affaire de Jacques Raymond qui est condamné, je ne suis pas sûr, moi, qu'en 92, il l'aurait été, mais aujourd'hui, il l'est parce que le processus a supporté la victime. C'est très bien qu'il en soit ainsi.
Les choses avancent pour le mieux dans certains dossiers, Maître Bellemare.
Oui.
Pour des dossiers de SAAC, DIVAC, de CNESST, bellemareavocat.ca.
Tout à fait, quand vous voulez.
Bonne fin de soirée, Maître Bellemare.
Merci.
Au revoir.
Bonne semaine.
Bye bye. Bonne soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Chez Cora, pendant le Festival des cassolettes, ça va être dur de choisir entre nos 5 nouvelles cassolettes. Parce qu'il y a, entre autres, la cassolette grande bouffe et son surprenant goût de burger, la cassolette style hot chicken, un classique réconfortant, et la délectable cassolette halloumi et chorizo. Avec ces nouvelles cassolettes de Cora, ça va être dur de choisir, mais que cela ne tienne!
Offre valable jusqu'au 30 avril dans les salles à manger pour emporter et à la livraison. Chez Cora, moi je déjeune avec le Festival des cassolettes.
Je l'ai toujours dit à mon chum Étienne Lessard, courtier immobilier, les auditeurs de Boulevard sont les meilleurs. Et quand il m'a parlé de son concours offrant la chance de gagner 2 500 $, je me suis dit qu'à la gang, on allait lui prouver. Vos parents, votre ami, votre voisin ou vous-même souhaitez vendre votre propriété dans la prochaine année, Étienne et son équipe veulent les connaître. Envoyez leurs coordonnées par téléphone, courriel ou sur les réseaux sociaux d'équipe Étienne Lessard Remax. Faites aller vos contacts. En plus d'avoir une chance de gagner le grand prix, le projet de vendre votre maison pourrait être réglé rapidement avec Étienne Lessard, courtier immobilier.
T'as une bonne dextérité et tu aimes fabriquer des objets? Inscris-toi au DEP en usinage au CFP de Neuchâtel et deviens machiniste. Sois payé pour étudier et apprends en travaillant manuellement à l'école et en entreprise. Début des cours en août. Pour t'inscrire, devenir machiniste.com.
La chasse aux promos de Pâques a commencé chez Corbeil. Jusqu'au 12 avril seulement, partez à la recherche de nos rabais et découvrez nos électroménagers à prix fondu. De la cuisine à la salle de bain, mettez la main sur l'appareil dont vous avez besoin. Lave-vaisselle, four, frigo, le lapin de Pâques vous fait économiser gros. Jusqu'à 1 500 $ d'économie sur une vaste sélection d'électro. D'autres surprises vous attendent en magasin. Corbeil, pour les bonnes causes. Détails sur corbeilelectro.com.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propre. Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est tout pour moi en ce lundi soir, 3 avril 2023, en espérant que vous ayez passé une belle heure en compagnie de moi-même et de Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare qui va être de retour chez nous lundi, sans faute, à 18h sur les zones de Boulevard 102.1. Sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on a vu passer aujourd'hui? Je fais un court survol de l'actualité. Trump qui est en route pour sa comparution judiciaire qu'on dit historique à New York. C'est la première fois qu'on voit un ex-président des États-Unis être traduit devant la justice. Et je ne sais pas si vous avez vu les images passer là, sur vos différents fils d'actualité, mais c'est un cercle. Il est parti de la Floride, assisté par les policiers de l'endroit, assisté par le Secret Service, parce que Donald Trump est toujours escorté par le Secret Service et il sera jusqu'à la fin de sa vie. Ça fonctionne comme ça aux États-Unis pour ce qui est des ex-présidents des États-Unis, parce qu'on les considère toujours comme Monsieur le Président. Mais n'en demeure pas moins que tout le monde le suit aujourd'hui. Et là, il y avait des fans et des haters, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, là, qui tout au long du parcours scandaient des propos à Donald Trump. Et là, Donald Trump qui est allé vers l'aéroport et par la suite qui s'est envolé vers New York. Doit être arrivé à l'heure actuelle où on se parle, doit être arrivé. Et demain matin, on va lui signifier son inculpation dans une affaire de fraude qui serait liée à un versement d'argent à une vedette du porno. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Stormy Daniels. Si vous êtes dans le véhicule avec votre conjointe et que vous écoutez présentement, faites comme si de rien n'était. Mais pour les autres, Stormy Daniels sur Google, vous allez voir certainement de qui je parle. Vous l'avez certainement vu passer. Donald Trump, 76 ans, multimilliardaire, qui va être là demain. On va prendre ses empreintes digitales. Il y aurait probablement une photo aussi qui serait prise. Ce qui reste à déterminer, c'est est-ce qu'on va le faire sortir devant tout le monde, escorté par des policiers. Ça me surprendrait par mesure de sécurité. Mais bon, les Américains sont capables de faire abstraction de ça une fois de temps en temps pour le spectacle. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? La mission Artemis 2, vers les alentours de 11h ce matin, on apprenait qui allait être l'astronaute canadien qui s'envolerait vers la Lune et non sur la Lune. Je sais qu'il y a plusieurs médias qui ont mentionné que l'astronaute canadien allait aller sur la Lune. Non, il va être en orbite autour de la Lune, mais il ne mettra pas ses petites bobottes directement sur la Lune dans cette mission-là qui s'appelle Artemis 2. Et c'est l'Ontarien Jeremy R. Hansen qui va être l'astronaute canadien à bord de cette fusée-là. Et le décollage est prévu pour novembre 2024. Un gars d'une cinquantaine d'années plus précisément, 47. C'est un ex-pilote de chasse, c'est un père de trois enfants. Il a étudié les sciences spatiales au Collège militaire royal du Canada de Kingston et il a complété une maîtrise en physique au même établissement. Et dès l'âge de 17 ans, il avait obtenu son brevet de pilote qui le mènera par la suite à son admission au Collège militaire royal de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on avait David Saint-Jacques, je pense aussi, qui était présenté. J'imagine que David Saint-Jacques était extrêmement déçu de ça, mais bon, il y aura peut-être la chance de se reprendre à un autre moment. Sinon, je regarde ici devant moi de quoi je peux vous jaser. Peut-être que vous ne l'avez pas vu passer ça dans l'actualité, parce que ça a passé très rapidement. Le service de transport en commun à Toronto qui doit absolument augmenter ses tarifs en raison du fait que il n'y arrive pas avec le nombre d'utilisateurs et de ce fait même, ils ont décidé de réduire les services pour ce qui est du transport en commun à Toronto. Je vous rappellerai qu'il y a un beau gros tramway là-bas et le PDG de la commission de transport de Toronto dit ne pas vraiment avoir de plan là, si la police ou encore la province et ou le gouvernement fédéral ne comble pas le trou dans son budget pour ce qui est de 2023. On parle d'énormes montants, la contribution qu'on demanderait tant à la province de l'Ontario qu'au gouvernement fédéral, ça avoisinerait total tout 366,4 millions de dollars. Qu'on s'attend pour combler le manque à gagner. Et c'est des impacts qui sont non financés là, de la COVID-19. On dit que c'est pour combler les impacts qui sont non financés de la COVID-19. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a plus de gens qui travaillent à la maison. Donc, moins de gens qui utilisent le transport en commun. Mais le transport en commun, ben, à Toronto, on a le tramway, on a les autobus, et puis il semblerait que les utilisateurs ne sont pas là. Donc, on devra. Puis c'est une décision qui est très responsable, soit dit en passant, là, si les utilisateurs ne sont pas là, donc ben de la misère à soi. Si les utilisateurs ne sont pas là, pourquoi faire fonctionner les autobus ou encore le tramway pour rien? Mais est-ce que ça va avoir un impact, ça, sur Québec? Si vous n'en parlez pas à vos députés, si vous n'en parlez pas au maire, si vous n'en parlez pas autour de vous, cette nouvelle-là va tomber et sombrer dans l'oubli. Sinon, je pense que c'était tout pour ce qui est de ce soir. Je regarde à la météo, de la neige ou de la pluie à certains endroits. Peut-être même du grésil, c'est ce qu'on nous mentionne, 2 cm, minimum de moins 1 pour ce qui est de ce soir. Demain mardi, ce sera un ciel dégagé avec un maximum de 8 degrés. Mercredi, ce sera de la neige, maximum de moins 2. Jeudi, de la pluie, maximum de 7 degrés. Et vendredi, ce sera une alternance de soleil et de nuages, maximum de plus 4 degrés. Audrey s'en vient dans les prochaines minutes avec son fameux sex tape. Et sinon, moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 11h30 avec Élodie pour ce qui est de Marceau de midi. Ça a été un plaisir. Puis sinon, on se rejoint à 18h demain. Salut, bye-bye.
Marceau, le soir. Le soir.
Dites enfin bye-bye tatou avec les Cliniques Viva. Découvrez la nouvelle technologie de détatouage par laser maintenant disponible chez Viva. Ultra efficace sur tous les types d'encre et couleurs de peau. Réservez votre consultation sans frais et obtenez une carte cadeau de 100$ applicable sur votre traitement. Cliniqueviva.com.
Imaginez pouvoir côtoyer des gens d'ici et d'ailleurs et vivre l'effervescence du Vieux-Québec dans le cadre de votre travail. C'est votre chance. Les hôtels Champlain et Atypique sont à la recherche de personnel de réception à temps plein et temps partiel. Vous êtes bilingue, dynamique et vous aimez profondément les gens? Joignez-vous à l'équipe des hôtels Champlain et Atypique, une propriété de Leclerc Groupe Hôtelier. Postulez au carrière.fm.
Découvrez le Stromspa nordique sous les étoiles avec les soirées lumineuses. Un moment unique de ressourcement en pleine nature. L'expérience thermale est offerte à 10$ de rabais dès 17h. Tous les détails au stromspa.com.
Le monde du spectacle te fascine? Fais ta demande d'admission au deuxième tour avant le 1er mai au programme de production scénique, régie et technique scénique offert au Centre d'études collégiales de Montmagny. À 50 minutes de Québec, on t'offre une formation intensive de 2 ans avec une tonne d'expérience terrain sur des vrais shows et festivals. Étudier chez nous, c'est payant. Découvre les bourses dont tu pourrais bénéficier et la liste complète des programmes sur cecm.ca.
100 maisons connectées de TELUS.
Est-ce que j'ai barré la porte? Il faudrait que j'aille vérifier. Mais si je fais ça, je vais être en retard pour le spectacle de la petite. Puis si je suis en retard, elle va être fâchée. Elle va me bouder pendant des mois. Elle va partir de la maison à 18 ans. Elle ne me parlera plus jamais.
Avec Maison connectée de TELUS.
Est-ce que j'ai barré la porte? Voilà. C'est fait.
Gérez facilement votre système d'alarme et plus encore avec l'application Maison connectée de TELUS, élu service de sécurité résidentielle le plus digne de confiance au pays par BrandSpark en 2023. Passez en boutique ou visitez le telus.com/maison connectée pour en savoir plus.
Thank you, ta playlist. Mais elle t'apprendra jamais rien. Tu répondra jamais à tes textos. En tout temps, 971-1021.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
Il y en a qui sont scandaleux. Il y en a qui se retrouvent sur des sites louches. Il y en a qui sont très attendus. Puis il y en a d'autres que tu veux pas voir.
Maman, c'est quoi qui est sur cette cassette-là?
Oh non!
Le nôtre commence maintenant. Voici Sextape, le podcast avec Audrey Pinchot.
Présenté par les boutiques érotiques au 7e ciel qui, tout comme notre podcast, s'invite dans votre intimité pour votre plaisir. Marché Jean Talon, 911 Charest-Ouest au 7e ciel.com.
C'est parti pour un autre sextape. Bienvenue, contente parce que c'est un épisode vraiment spécial aujourd'hui où je suis franchement bien entourée, je vais le dire. On fait ça à trois, c'est une première, on fait ça à trois. Et avant tout, avant de me lancer, bien, je veux prendre le temps de remercier les boutiques au 7e ciel qui ont embarqué dans le projet de podcast avec nous sans hésitation. Ça qui ce serait probablement pas possible. Donc, 7e ciel, c'est vos boutiques références si vous avez envie d'essayer des nouvelles affaires, d'intégrer des jouets sexuels dans votre relation ou dans votre vie solo, ça se peut. Il y en a qui n'ont jamais osé faire le saut, qui ont peur un peu du nouveau. On a une belle équipe pour vous conseiller au 7e ciel. Des jouets, des produits pour femmes, pour hommes, pour le couple aussi. Et on en a à tous les prix. Parce qu'il faut se le dire, on a souvent en tête que ça coûte cher s'équiper en jouets sexuels, mais pas nécessairement. Il y a moyen de commencer un peu plus doux, de voir si on aime ça, d'avoir des jouets un peu moins gros aussi. Et le 7e ciel est là pour ça. 2 succursales pour vous servir. 911 Charest-Ouest, Marché Jean Talon de Charlebourg. Le site web, c'est le7e ciel.com. Comme je vous disais, très bien entouré pour ce podcast-ci. Je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter. Mais là, vous avez entendu une voix qui est probablement... que vous reconnaissez, celle de Pascal Caron-Vézina, Pascal CV. Très contente que tu acceptes de faire ce podcast-là avec moi. C'est comme un crossover Sainte-Nitouche sextape.
C'est vrai que ça ressemble.
C'est vraiment ça.
Merci de l'invitation.
Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on va essayer de faire de quoi d'intelligent. Okay? On va essayer de parler de sexualité, mais il y a beaucoup de psychologie, pas dans la sexualité. Puis le cerveau de la conversation, je vais le dire comme ça, c'est Charles Laulier qui est sexologue, qui est intervenant en dépendance aussi. Il y a une dépendance qui existe en sexualité aussi. Il y a une dépendance qui existe en pornographie. Mm-hmm. Puis ça, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, là, la pornodépendance. Puis j'ai envie qu'on en parle un peu. C'est quoi exactement? Parce qu'entre vous et moi, je ne sais pas comment vous gérez votre consommation de pornographie au quotidien, mais moi, même si j'en consomme, mettons, 3-4 fois semaine, j'ai pas l'impression d'être dépendante à la pornographie. Fait que la limite, elle est où? C'est quoi, en fait, la définition de porno-dépendance?
Porn addict.
Ouais, c'est ça.
C'est quoi la dépendance en soi? Mettons que je parle là-dessus, parce que la porno en soi, c'est un moyen. T'es la pornographie, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la drogue, que ce soit de la porno, que ce soit de ta relation amoureuse, que ce soit de la pizza, on s'entend. Tu peux être dépendant à peu près de n'importe quoi. D'où ça vient la dépendance? Il faut que tu comprennes précisément. La dépendance va te servir à combler quelque chose, combler un vide, combler un manque. Et après ça, ça devient une béquille. Donc, mettons, quelqu'un qui va être dépendant à la pornographie, il a besoin de la pornographie où il ne peut pas s'empêcher d'en regarder. Fait que, mettons, quelqu'un qui est dépendant de la pornographie, mettons, pour en avoir vu quelques-uns, mais t'as des gens qui vont... La pornographie joue 24-7 dans leur maison. T'as pas un fil YouTube de porno, de musique, c'est de la porno en feed sans arrêt. Parce qu'ils peuvent pas s'empêcher d'en regarder. L'espèce de stimuli, je veux dire, quand tu regardes la porno, c'est rare que tu t'endors.
Là, c'est un cas extrême, par exemple, j'ai l'impression.
Oui,
on est allé dans vraiment un bel exemple d'extrême, par exemple.
Oui, c'est pas tout le monde qui est de même. On s'entend, c'est pas parce que tu regardes pas de la pornographie 24-7 que tu n'as pas une dépendance. Mais c'est quand tu peux pas t'en passer. Ou c'est quand... Tu vas vraiment, ça va faire que tu vas pas aller travailler, ça va faire que tu vas te coucher tard, parce qu'à un moment donné, il va de l'escalade, ça va faire que tu vas être obligé de le faire à job. Ça... À un moment donné, c'est que la pornographie va venir prendre une place si grande dans ta vie, comme l'alcool, comme la drogue, que tu es obligé de la consommer.
Est-ce que je me trompe aussi de croire et de penser que cette dépendance-là peut se manifester dans le fait que tu n'es pas capable d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un autre que par passer par la pornographie?
Bien, comme le film, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Don Juan, où justement le gars faisait l'amour avec des filles puis il était prêt à devenir, fait qu'il fallait qu'il se masturbe sur la... Ouh, ça va arriver. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des... Moi, je dirais ça, même en sexualité, mettons, j'ai des hommes dans un couple qui vont des troubles érectiles, bien, ils vont venir me voir. Première fois que je leur pose comme question, c'est « OK, dans ton couple, ça marche pas. Ouais, je sais pas qu'à demander quand j'arrive à faire l'amour avec ma blonde. » Par la suite, je leur pose le simple, les bonnes questions. « Ouais, mais quand tu te masturbes, ça marche-tu? » Puis ils me répondent « Oui. » Donc, essentiellement...
Il y a une connexion qui fonctionne pas, là.
Tu vas comprendre que ça peut être du stress, ça peut être le regard de l'autre, la performance, les attentes. C'est juste le fait d'avoir des attentes face à « Ah, ben si je fais l'amour, faut que je la fasse venir, mais elle vient jamais. » C'est comme une espèce de grosse boule.
Je me sens encore déçue, bon. Je vais encore la décevoir. Il va y avoir le stress des fois aussi du passé sexuel de la personne.
Oui.
Si, par exemple, on prenait un gars là, comme exemple, entendu le passé sexuel de son conjoint ou sa conjointe, et le trouve beaucoup plus florissant et impressionnant que le
par
sien.
Confiance.
Exactement. Puis il va se dire « Ben écoute, je vais-tu être aussi hot que ses anciens? » partenaire sexuel. Puis ça se passe dans sa tête, puis souvent, il va pas, même pas le nommer, là,
ça à la partenaire. Ça se passe dans sa tête, des fois, même pendant qu'ils sont en train de faire des préliminaires. Ça, t'es, ou, mettons, quelqu'un qui va regarder de la pornographie, ben là, t'es... dans votre cas, je sais pas si c'est le cas, mais, mettons, je sors de Fast and the Furious.
Ouais,
j'ai
vas-y.
Le goût de chauffer un peu plus vite.
Ouais.
Je sors d'un film porno. Mm-hmm. Je regarde un film porno avec ma blonde. Est-ce que je me compare? Oui.
Mais c'est sûr.
Beaucoup comparé. T'es, moi, j'ai pas la chef de Chris Hemsworth et je suis déçu.
Mais au-delà de ça, tu vas te comparer, oui, physiquement, mais dans la manière aussi d'aborder une relation sexuelle. Mm-hmm. T'sais, vous, je sais pas quelle place a pris la pornographie plus jeune, mettons, dans votre vie, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon entourage ou des gars plus jeunes qui m'ont dit souvent, ben, t'sais, moi, c'est les premiers exemples de relations sexuelles que j'ai eues dans ma vie, c'est ça. Fait que je tombe avec une fille pour la première fois, j'essaie de reproduire ce que j'ai vu, les positions, le fait de changer de tout bord, de tout côté aux 3 secondes d'écart. Tu vois...
Que ton pénis n'est jamais assez bandé et assez
gros. Mais tu sais, c'est un peu tout ce que tu vois comme image. Puis tu parlais de bon, faire jouir une femme, ben, c'est parce que c'est assez intense dans certains vidéos.
C'est majoritairement par la pénétration. En tout cas, la pornographie tend à changer. Mm-hmm. Mais moi, j'ai 28 ans, retourne à mon secondaire. Honnêtement, moi, je croyais que c'était pour plutôt les hommes, la pornographie, parce que ce qui s'offrait, c'était beaucoup plus... un homme qui fait l'amour à une femme qui montre du sexe. Tu sais, comme, hey, moi, oh, j'ai jamais vécu ça, là, c'est incroyable, c'est un orgasme exceptionnel à chaque fois.
Le plus beau de sa vie, là.
Oui. Toi, tu commences à avoir des relations sexuelles, puis tu dis, Colin, je vis pas ça.
Mais non, ma première a fait mal. Hey, j'ai pas tant le goût de crier.
Non, puis le garçon s'attend peut-être à ce que tu cries comme elle. Fait que c'est des choses aussi qui vont peut-être faire de mauvaises bases dans ta vie sexuelle au départ. Mais ça dépasse. T'sais, moi, j'en consommais pas en croyant que c'était pour les gars. Fait que je me considère un peu chanceuse.
J'en ai consommé tard aussi.
Ouais, c'est ça.
Mais j'ai été, là, je vais utiliser le mot victime, on s'entend, pas d'un sens supra-négatif. Là, t'en parles rapidement, puis tu t'en rends compte, mais j'ai été victime, entre guillemets, d'un gars qui avait juste ça comme base. Fait que ce qu'il s'attendait de moi, c'était différent aussi, tu sais. Fait que c'est sûr que ça agit sur... Puis c'était une personne qui consommait énormément de pornographie. Je pense pas de façon maladive, un peu comme on en a parlé. Je pense pas que ça modifiait littéralement son quotidien. Mais lui, pour lui, c'était ça, le sexe. C'est littéralement ça, une relation intime.
Ben, tu veux pas... T'es juste, mettons, on parle de la pornographie que tu viens de nommer. J'ai l'impression que c'est seulement pour les hommes. Ben, essentiellement, la pornographie dite traditionnelle est faite par des hommes, pour des hommes. Donc, la pénétration, des longues fellations. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la femme...
Mais le lard est accessoire.
C'est un accessoire. Ce n'est qu'un accessoire qui parle, qui bouge, puis qui fait du mauvais acting. T'sais, c'est ça ensemble dans le...
T'as fait une belle parenthèse sur les scénarios ultra poches, dis-moi.
Le livreur de pizza.
Seigneur.
Non, mais t'es comme toute cette espèce de structure-là. Puis là, après ça, tu prends, mettons, des jeunes garçons ou peut-être même de certains niveaux des jeunes filles qui vont se baser là-dessus.
De ce que j'ai compris, puis corrige-moi, là, je suis loin d'être... Mais plus la quantité de dopamine libérée augmente, plus l'envie de consommer est élevée parce que tu recherches un plaisir toujours plus intense, un stimuli toujours plus intense. Fait qu'à un moment donné, dans cette dépendance-là à la pornographie, j'ai même l'impression que ce mot-là, moi. À la pornographie, de plus en plus, on dirait que tu vas dans des scénarios aussi ou des vidéos qui vont devenir de plus en plus déviants, j'ai le goût de dire. Tu sais, tu pars peut-être avec une relation sexuelle de base qui a l'air normale, plus douce, puis tu te ramasses dans des coins après ça de certains sites qui sont peut-être un peu plus sombres.
Des espèces de gros gangbangs, là.
Ben oui, puis j'ai l'impression qu'à un certain point... est-ce que ça peut créer des déviances sexuelles, littéralement?
Est-ce que ça peut créer des déviances sexuelles? Ben, mettons, je vais prendre le premier bout que tu dis, l'augmentation de la dépendance, puis je vais en parler après. T'sais, mettons, on parle d'augmentation de dépendance. Il y a le côté dopamine, c'est sûr qu'il y a un espace dans le cerveau, mais qu'est-ce que ça fait, la dépendance, chez un humain? Toute dépendance, comme je dis, vient d'un mal-être. Essentiellement, t'es pas bien. Souvent, après ça, on va avoir des gens, mettons, qui sont dépendants, qui vont se mettre à mentir, qui vont, mettons, que tu te fais pogner parce que t'as passé 3 heures sur la pornographie, tu t'es couché tard, tu rentres tard à la job. Tu vas pas dire à ton boss, ouais, ben, je me suis crossé pendant 3 heures. Non, non.
Ça passe moins bien qu'on me dise.
Non, tu vas inventer un mensonge.
Ben oui.
Puis là, ben ça, est-ce que ça aide ton bien-être? Parce que, mettons, rappelons-nous qu'on est tous des humains, on aime être honnête, on aime le respect. Ben si tu mens, essentiellement, t'es pas heureux. Parce que tu sais qu'il y a comme une espèce de... Ah, ben, j'ai menti, je suis obligé de dealer avec ce mensonge-là.
Tu tombes dans un tourbillon. Là.
C'est ça. Fait que là, le mal-être s'intensifie, puis là, ben tu tombes dans cette espèce de spirale-là de « je peux pas m'en empêcher ». Puis là, à cause que j'ai menti, quand je me suis rentré dedans, j'ai une mauvaise journée à job, je rentre chez nous, je me remasturbe. Et là, on va tomber, parce qu'on avait un peu parlé des questions que tu m'avais posées, ben, entre l'orgasme et l'orgasme, il y a une ligne là-dedans.
C'est quoi la différence? Je la connais pas non plus. Connais l'orgasme, orgaste, j'avais pas entendu ça jusqu'à maintenant.
Alors, sûrement que vous l'avez vécu beaucoup, l'orgaste, mais vous avez peu vécu d'orgasme. Vas-y, on va voir ça. Un orgaste, pour les gens qui aiment la phonétique, un orgaste, c'est ce qu'on appelle l'orgasme mécanique. Si tu te joues après, à un moment donné, tu vas venir.
OK, mon
c'est
Dieu.
C'est le climax de... C'est plus technique que ça, mettons, je te l'explique bien simple. C'est l'orgasme du corps. Donc,
ça doit être plus facile chez l'homme que la femme. C'est le cerveau facile... suit souvent chez la femme, j'ai l'impression.
Oui, mais mettons que tu fais juste te décoller, puis tu sais, mettons, des petites filles qui vont se frotter sur tes coussins, ou des affaires de même. Ils ne sont pas dans l'orgasme. Ils ne sont pas en train de vivre une extase magique. Ils sont souvent dans des orgasmes. C'est un pic de relâchement de tension. C'est très plaisant, mais ce n'est pas un orgasme. Un orgasme, c'est ce qu'on appelle... c'est le même principe, mais avec l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, l'aspect désir, qui va amener cette espèce de climax-là plus loin. Qui va faire... Souvent, mettons, une femme qui va avoir plusieurs orgasmes en ligne. Mais quand on parle d'orgasme, c'est souvent un... Pour un homme, plus c'est un one-hit wonder.
Oui.
Pour une femme, l'orgasme va être quand même moins intense. C'est plus un soulagement de tension qu'un « je veux maintenir ce plaisir-là ».
Est-ce que l'orgasme, c'est un peu ce qu'on va chercher avec des objets sexuels lorsqu'on est seul?
À un certain niveau, oui.
OK.
Là, il y a la nuance avec se faire une... Oui, c'est ça. Il y a la nuance à se faire une fantasmatique dans sa tête qui peut amener à l'orgasme. Ouais. Parce que,
un scénario.
Si tu penses à ton beau voisin, tu fais un petit scénario, puis tu vois, je t'avais dit, il va faire des niaiseries. Tu fais un peu petit scénario, tu joues avec l'émotion, tu joues avec le désir, le scénario fonctionne, tu peux te rendre à l'orgasme. Parce que ce n'est pas que physique. Ouais. C'est mental, c'est plaisant. Fait que si on tombe dans le désir, c'est ça. Fait que le gars qui va se masturber sur de la porno, il n'est pas dans l'orgasme. Il est dans l'orgasme. Et là, on va tomber dans une merveilleuse affaire que j'appelle la balance entre le corps et l'esprit. Plus tu te masturbes sur de la pornographie, tu crées un vide au niveau de ton esprit. Parce que ton corps est rassasié, mais ton esprit il est en manque. Parce qu'il n'y a pas de soulagement, de tension émotive, de plaisir. Donc là, ça fait que pour avoir du plaisir, il faut que je le fasse plus. Là, on tombe dans le côté dopamine, mais là, je te le visualise de manière plus mental, corps physique, l'équilibre entre les deux. Donc, plus tu vas te masturber, plus ça va en prendre pour que ton cerveau soit satisfait. pour créer cette espèce d'équilibre.
Il y a quelque chose de fascinant aussi dans le fait que quand tu consommes de la... Moi, j'avais déjà entendu parler de jeunes qui... Dans notre génération, nous, Internet a été là très, très tôt. Quand tu compares les générations à travers le temps, tu as celle de nos parents. Puis là, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui ont l'âge de mes parents qui écoutent en ce moment, qui vont se reconnaître, qui n'avaient pas nécessairement cette accessibilité-là au web. Vous allez me dire, il y avait les revues, c'est vrai. Mais le web est quand même beaucoup plus visuel ben, que la revue. Oh. Ça bouge et tout ça.
Moi, quand j'ai commencé à avoir accès à Internet, dans mon village, on n'a pas haute vitesse. Fait que moi, vidéo, t'oublies ça. C'était des photos qui apparaissaient par tranches.
Tranquillement. Là, oui, ça descend à l'écran. Là.
Pendant la 3 minutes de descente, c'est comme c'est celle-là. Ça va être sur celle-là
que
ça va
arriver. C'était ça le build-up dans le fond. C'est d'arriver au
ma tête, je vois sa face, je vais faire le reste.
Charles, ferme l'ordi, parce qu'il entendait
mi exactement. En plus, ça,
bon vieux.
Ça, je compterais pas ça.
Ce qui arrivait souvent, c'est que ce que je me suis fait dire, qui arrive souvent, puis qui arrivait, moi, je retourne en 2015-2016, quand j'avais parlé de ça avec des professionnels, c'est que les gens qui consomment trop de pornographie ont un détachement avec leur sens. Alors, pour en sortir de cette dépendance-là, il faut qu'ils réapprivoisent tout ce qui est le toucher, l'odeur. Tu sais, des fois, le parfum, là, notre conjoint-conjoint, notre partenaire, c'est que le son, la bouche, le goûter, il y a beaucoup de choses que la personne qui se masturbe devant un écran, par exemple, en pornographie, n'aura plus de contact avec. Et il faut tout réapprivoiser ça pour être capable d'avoir du plaisir qui monte ou un orgasme.
Mais tu sais, ça fait partie des impacts, j'imagine, là, mais il n'y a pas que ça, là.
Non, mais je vais te donner un autre en plus. Mais tu sais, c'est très impactant, ce que tu nommes là, c'est que ça devient personnel. Mm-hmm. Juste faire l'amour, ça devient personnel.
C'est un défi après avec une personne devant toi.
Et en plus, fait que là, tu demandes après ça pourquoi il bande pas quand il est devant quelqu'un. Ben, c'est sûr. Plus tu regardes la pornographie, tu l'as nommé tantôt, plus je regarde la pornographie, plus je vais avoir besoin de booster ma stimuli. Mais à l'inverse, il y a des gens qui vont rester stickés sur une affaire. Donc, mettons, prendre encore des hommes, parce que c'est beaucoup ma clientèle, un homme va se mettre à regarder de l'anal, mais ne va regarder que des vidéos d'anal. Ben là, on a un build-up de fantasme qui est déconnecté de la réalité, parce que dans sa vraie vie, quand il fait l'amour avec sa blonde, il n'y a pas d'anal. Sa blonde ne veut rien savoir, mais lui, il veut ça. Ben maintenant, on arrive à un moment où il risque d'avoir ce qu'on appelle un acting out, fait qu'il va faire de l'anal. Sans forcément avoir le consentement.
Si on a une espèce de force, équilibre. Soit
de la manipulation, soit se trouver une soit aller voir ailleurs. Okay. C'est comme la pensée va devenir envahissante.
Ça fait partie des dangers. Là.
De surconsommer quelque chose. Je peux même te faire un autre parallèle. T'sais, mettons, on parlait de fantasme avec le voisin tantôt. Ben, si on parle d'infidélité, ce mécanisme-là de fantasme, mettons que tu te fais des scénarios dans ta tête, ben, il peut venir avec aussi ton entourage. Plus tu vas, mettons, tu penses à l'ami cute de ta blonde, ben plus tu vas te masturber en pensant à elle, plus tu vas créer un désir vers elle.
Fait qu'il y a possibilité qu'à un moment donné, tu aies vraiment le goût d'aller vers elle, point dans
c'est
la
ça.
Réalité.
Puis ça va te permettre. Tu traînes ça dès le départ ou tu puis peux comment? Te permettre cet imaginaire pas... secret-là?
Le fantasme est correct qu'on le garde, mais comme n'importe quoi, si c'est over-abusé, ça devient néfaste.
Tu fais quoi à ce moment-là?
Ben, tu peux penser comme. Tu pourrais penser à...
L'autoflagellation!
Ouais, c'est ça, voyons, comment tu déconnectes.
Non, mais tu pourrais penser, mettons, à la meilleure amie de ta blonde, mais tu peux penser aussi à ta blonde, tu peux booster des scénarios avec ta blonde. Essayer de le mettre dans le plus dans la réalité. Moi, j'ai des techniques qu'on fait travailler avec ça pour travailler le fantasme avec justement des clients dans un couple pour ramener un peu de moi ce que j'aimerais dans ma sexualité dans le couple. Il y a des choses qu'on peut travailler avec ça. Mais là, ce que je voulais juste expliquer, c'est des fois, on tombe dans une situation de j'ai pas envie de tromper ma blonde, mais tu continues de penser à l'autre, puis tu continues de te masturber en pensant à l'autre, bien, tu te crées volontairement un projet de ah ouais, je suis en train de me convaincre que c'est une bonne chose.
Tu n'as pas envie d'aller là, mais tu continues d'avancer vers une pensée qui pourrait te permettre de passer à l'acte. Puis il y a une chose qui m'a...
Tu te convaincs.
Ouais, c'est ça. Tu as parlé de la volonté sexuelle des partenaires qui, des fois, est différente.
Hey boy.
Est-ce que tu es obligé d'être sur la même longueur d'onde côté fantasme ou tu dois choisir des fantasmes qui se réaliseront et d'autres qui ne se réaliseront pas en étant en couple?
Tu sais, si la vie de couple était construite que pour la sexualité, on ne serait pas en couple. On ferait tous des polygames, puis on ferait juste des enfants, parce que c'est le temps de faire des enfants, on serait des animaux. Quand on tombe sur les fantasmes, si on est décalé, c'est pas tant... T'es pour un couple, marche, faut pas que t'aies officiellement les mêmes fantasmes pour dire que ça fonctionne. Mais faut que t'aies l'ouverture d'esprit de dépasser certaines de tes limites, qui va faire que là, Ben, ah, mon mari fait, mettons, je vais prendre un couple de lesbiennes, parce que je suis tanné d'aller dans l'hétérocentrisme. Oui. Fait que je vais prendre, mettons, j'ai une fille qui est comme, moi, je suis très ouverte, beaucoup de jouets, elle fait du outdoor, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Avec mon frère, ça n'était pas bon. Et de l'autre côté, ben, tu en as une qui est assez réservée, assez tranquille. Ben, faut qu'il y ait les deux de, ben, faut que je donne un pas vers l'autre. T'es, la personne qui est le moins à l'aise, c'est elle qu'il faut qu'il gagne, parce que c'est elle qui a le plus de restrictions.
C'est une question de compromis.
C'est une question de compromis, mais c'est une question aussi d'ouverture. C'est vraiment l'ouverture d'esprit qui va faire la différence. Mm. L'honnêteté et l'ouverture d'esprit. T'es, si tu n'es pas honnête en disant « Ah, ben j'ai peur qu'il ne m'aime pas ou qu'il me trouve un peu frigide ou whatever, ben je vais y aller pareil. » Mais là, on n'est pas dans le consentement. Parce que justement, pour plaire, si c'est pas toi, dans le futur, ça va redevenir, tu vas redevenir ce qui t'était, puis l'autre va être déçu.
Ben oui, puis l'autre pourrait sentir extrêmement mal d'apprendre que tu as fait quelque chose sans dire que tu n'étais pas à l'aise parce que tu dis que je dois le faire. Puis là, la personne qui est avec toi peut sentir qu'elle a bypasser ton consentement, se sentir comme quelqu'un d'inadéquat aussi si ça n'a pas été nommé.
C'est sûr que par contre, si mettons, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. T'es, moi, je peux pas aller plus loin que ça. Puis l'autre, comme, ouais, ça, là, ça,